Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Trois continents, trois pays, la France, le Japon et le Tchad. Trois lieux emblématiques pour notre invité aujourd'hui, né à Strasbourg, enseignant à Tokyo et qui dans son nouveau livre se souvient de son enfance à N'Djamena. Bonjour Michael Ferrier.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de plusieurs romans et essais dont Fukushima, récit d'un désastre, catastrophe nucléaire dont vous aviez été témoin, Mémoire d'outre-mer, sur les traces de votre grand-père à Madagascar, ainsi que François, portrait d'un absent, couronné par le prix Décembre en 2018. Et vous venez de publier un récit autobiographique paru sous le titre Scrabble aux éditions Mercure de France qui se déroule à la fin des années 70 au Tchad, donc où vous avez vécu jusqu'à l'âge de 11 ans. Est-ce que vous voulez bien nous raconter pourquoi votre famille s'était installée dans ce pays d'Afrique en particulier?
Pour une raison toute simple, mon père était militaire de carrière, et donc il était venu dans le cadre d'un accord entre l'armée française et l'armée tchadienne, ce qu'on appelait à l'époque l'assistance technique. Voilà, donc il est arrivé au Tchad pour travailler tout simplement, et il a emporté dans ses bagages sa femme et ses enfants.
Ses deux fils, votre frère aîné et vous-même, donc Michael Ferrier. Et vous dites, pour commencer ce récit, j'eus une enfance de sable et de poussière entre la savane et la steppe. Le Tchad, pour moi, c'est d'abord le vent. Ce sont donc là vos toutes premières impressions?
Oui, exactement. Le vent qui soulève le sable, le vent de sable. Mais c'est intéressant, comme première impression, c'est celle qui, quand j'ai commencé à écrire le livre, c'est celle qui est revenue tout de suite. Et c'est intéressant parce que le vent, c'est vraiment l'élément glissant par excellence. C'est celui qui circule. Et c'est un récit d'enfance. Et je trouvais que c'était bien de commencer par le vent parce qu'un enfant est attentif, justement. Il est là, il commence à découvrir le monde, il l'explore. Il explore par les cinq sens, il se déploie un peu comme une rose des vents et il utilise tout, c'est-à-dire il utilise la vue, l'ouïe, l'odorat, il goûte, il mange même des bestioles vivantes et puis le toucher des pelages d'animaux. Et je trouve que l'enfance, c'est ce moment-là extraordinaire. J'écris dans le livre, l'enfance s'ouvre comme une mangue.
Exactement.
Et je voulais retrouver cette espèce de perception multisensorielle. Je voulais écrire cette enfance en respectant cette qualité d'attention qui est celle de tout enfant finalement et qui l'aide à explorer le monde.
En tout cas, ce qui est frappant en vous lisant, Michael Ferrier, c'est que vous vous êtes glissé dans cette nouvelle vie, ce nouveau continent, ce nouveau rythme, ce nouveau paysage avec une grande facilité.
Oui.
Il n'y a pas du tout eu de choc, de rétractation. Au contraire, vous étiez mains offertes, yeux grands ouverts.
Exactement, parce que là encore...
Le nez au vent.
Oui, le nez au vent, oui. Parce que là encore, l'enfant ne connaît pas ça, le choc des cultures, le choc des civilisations. Ce sont des bêtises pour les adultes. L'enfant, lui, il va à la découverte. Alors après, il peut se brûler, il peut se piquer, il peut lui arriver des tas de choses désagréables. Mais un enfant, il réagit pas de cette manière-là, qui consiste à se dire mais où suis-je et avec qui et quel drôle de gens et pourquoi sont-ils noirs et quelle est cette couleur de peau. Donc oui, il n'y a pas eu... Ce sont des questions que je ne me suis pas posées pendant mon enfance. J'ai circulé au milieu des enfants tchadiens. On m'appelait Toumaï, donc, qui est un nom Goran. Donc, alors je dirais pas que j'étais tchadien, mais justement, on peut pas dire on est tchadien ou français quand on a 10-12 ans, parce que les questions de nationalité, l'authentification par la carte nationale d'identité, ça vient après. C'est des bêtises d'adultes. Voilà.
Ce livre s'ouvre donc en février 1979. Vous avez 11 ans donc. Et à l'image de son titre, Scrabble, il est traversé par une partie de ce jeu qui consiste, je le rappelle, à former des mots sur un plateau à partir de lettres tirées au hasard. Et on comprendra à la fin du récit pourquoi cette partie que vous faites avec votre frère était à ce point exceptionnelle. Mais d'ici là, votre narration s'articule entre deux temps, le paradis et l'enfer, deux parties que vous avez nommées Toumaï et la guerre, puisqu'en effet, le pays va bientôt être déchiré par un conflit intérieur. Toumaï, vous le disiez à un instant, Michaël Ferrier, c'était un surnom que vous avez donné une jeune fille à Maboua. Et vous dites que ce surnom vous plaît parce que tout de suite, vous vous sentez tchadien.
Voilà. Je me sens un enfant du pays, je me sens un local, on va dire, un indigène, un autochtone, vous appelez ça comme vous voulez. Je me sens Toumaï puisque c'est le nom qu'on me donne.
Et il n'y a pas de différence?
Je dirais pas quand même qu'il y a aucune différence, parce que par exemple, je vis dans une maison en dur, j'ai des camarades, des petits camarades de classe à l'école qui vivent dans des cases. D'ailleurs, je raconte la première fois que je suis entré dans une case, donc on sent certaines différences, évidemment. Mais ce sont des différences qui sont enrichissantes, qui sont pas au niveau du blocage ou de la frontière infranchissable. Au contraire, ce sont des lisières qu'on a tout de suite envie de traverser et on a envie de prendre le bateau, la barque et d'embarquer pour cette traversée-là, oui.
Alors, c'est une traversée qui se fait aussi par cercle.
Oui.
Parce que, évidemment, quand on est enfant, on regarde à vue d'enfant son entourage. Donc, c'est le lit, la chambre,
voilà. La
maison, la cour et plus tard l'école et le reste du monde. Mais pour commencer, Michaël Ferrier, il faut dire que votre découverte de ce pays se fait d'abord par la nature, le monde végétal et le monde animal. Vous dites même que avant les êtres humains, les instituteurs, éducateurs, professeurs, avant même les parents ou la famille, ce sont les animaux qui m'ont formé. Fermez les guillemets. En quoi cette faune africaine vous a-t-elle formé?
Parce que quand je regardais les animaux, d'abord le monde animal, c'est incroyablement divers. C'est le pluriel à l'état pur. C'est-à-dire que même dans une espèce donnée, les criquets par exemple, il y en a de toutes sortes. Et donc, on apprend déjà la pluralité, le pluriel. On apprend à se défendre, parce que quand on essaye de choper un moineau, par exemple, il va sautiller, il va se carapater un peu plus loin. Essayer de prendre un serpent, il va piquer, un scorpion aussi. Donc il y a plusieurs manières de se défendre et on l'apprend. Il y a plusieurs manières d'attaquer aussi. L'école des animaux est une école de vie tout à fait passionnante. Et moi, enfant, mais je pense comme beaucoup d'enfants, ça c'est pas un cas particulier. J'aimais bien passer le nez dans la terre. Je regardais tout ce qui passait. Et voilà, oui, c'est ce que j'appelle aussi l'école du dehors. C'est-à-dire que il y a plusieurs sortes de scolarité. Il n'y a pas seulement celle de l'école, du collège, du lycée, même si c'est très important, hein, les institutions, l'académisme. Mais cette école de la nature, cette école de l'observation, c'est une école comparatiste aussi. Ça permet de regarder comment ça se passe dans telle ou telle espèce. Tiens, pourquoi ce lézard-là grimpe sur l'arbre et l'autre, il grimpe pas, il progresse par bond. Voilà, des tas de choses qui sont de l'observation, du comparatisme, dont finalement j'ai gardé le goût jusqu'aujourd'hui, puisque j'enseigne la littérature française, mais aussi la littérature comparée à l'université de Tokyo, à l'université de Chuo. Donc je pense que dans mon choix d'enseigner des, non seulement la littérature française, mais d'autres littératures, pas seulement francophones, et de m'intéresser à d'autres littératures, je crois qu'il y a un souvenir très puissant de mes amis les bêtes, oui.
Les bêtes dont vous dites que vous avez appris la langue.
Oui.
Donc ça continue aujourd'hui, Michaël Ferrier, vous savez parler le langage des bêtes.
Bien sûr.
Et lequel en particulier?
Alors en ce moment, je discute beaucoup avec un moineau et avec un héron. J'habite à Tokyo et il se trouve qu'il y a un couple de hérons qui nichent à quelques pas de chez moi. Il y a une petite rivière avec des cerisiers. Et alors, évidemment, le dialogue se fait presque chaque matin. Je dirais pas, ce serait exagéré de dire qu'ils me répondent à chaque fois, mais en tout cas, j'entame le dialogue très sérieusement. Ouais.
On vous croit. Alors revenons au Tchad, puisque arrive aussi donc la fréquentation des hommes, à commencer par Baba Salé, qui était un peu l'homme à tout faire de la maison, surtout cuisinier.
Oui.
Et lui aussi, on peut dire qu'il a été un magnifique professeur.
Oui.
D'ailleurs, je me demandais, qu'est-ce qu'aujourd'hui il vous reste de cet enseignement dans votre vie du quotidien?
Alors Salé d'abord m'a appris beaucoup de choses pratiques. Comment choisir des dattes, comment choisir des figues, comment faire cuire un poisson, comment attraper des oiseaux au piège sans les blesser, parce qu'il détestait ça, il n'aimait pas les pièges à mâchoire. Il préférait les pièges à glu, par exemple, qui attrapent les oiseaux sans les abîmer. Parce que pour lui, l'important, c'était pas d'attraper l'oiseau, c'était ensuite de, on l'attrapait pour quelque chose, pour le regarder vivre. Il y a toujours la notion, justement, d'apprendre quelque chose de la bête. Si la bête, vous l'attrapez, elle est morte, vous n'apprenez rien. Donc, il faut la saisir sur le vif, dans sa vie trépidante. Donc, il m'a appris tout ça. Il m'a appris aussi les légendes, les contes, il racontait chaque soir une histoire différente. Et puis, il avait cette manière que je relate dans le livre de parler par septénaire.
Les cycles de vie.
Voilà,
ça, c'est extraordinaire, ouais. Michel Ferrier. Rappelez-nous quels sont
les cycles de 7 ans, en fait. Voilà. Au bout de 7 ans, on commence à aller à l'école. Le deuxième cycle, à partir de 14 ans, on passe à une autre forme d'école, etc., etc., etc. Et puis, au bout du 6e ou du 7e septénaire, on a le droit de prendre sa retraite. Je me souviens qu'il utilisait le mot retraite.
Il faut apprendre à l'autre.
Voilà. On doit rendre ce qu'on a dû.
Ouais.
Alors c'est étonnant parce que Salé, c'était un cuisinier, comme vous l'avez dit, donc c'était quelqu'un qui venait du peuple et qui avait cette espèce de sagesse qui se transmet de génération en génération et oui, qui m'a énormément appris. Oui.
Et puis via le temps de l'école, de la mixité, des âges, des couleurs, des sexes, des tribus et puis des langues. Arabe, français, Haoussa, Moussé, pour en citer que quelques-unes. Est-ce que c'est de là aussi, Michel Ferrier, que vient votre goût pour le pluriculturalisme?
Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute, quand on a été plongé comme ça, et plongé de manière euphorisante dans des langues variées. Alors évidemment, l'enseignement se faisait en français, mais une fois qu'on sort dans la cour de récréation... De recréation pratiquement, c'est-à-dire qu'il y a toutes les langues sont en ébullition dans la cour. C'est une espèce de grand ballet dansant linguistique, de phonèmes. Et voilà, j'ai eu cette enfance-là plurielle, plurilinguistique, et sans aucun doute, là aussi, ça a joué ensuite sur mon goût des langues. J'en parle plusieurs, je les parle pas toutes très très bien, mais en tout cas. Dès que ça parle une langue étrangère, je tends l'oreille, voilà.
Autre grande découverte, la musique et l'apprentissage, Michel Ferrier, d'un instrument qui, visiblement, vous a beaucoup marqué, la flûte.
Oui, effectivement, j'ai commencé par prendre des cours de flûte avec Monsieur Coulon. Et puis après, Monsieur Coulon était au Tchad depuis plusieurs années, vraiment. C'était un vieux de la vieille, comme on dit. Et un jour, il m'a embarqué et il m'a dit, bon, maintenant, la flûte, c'est très bien. J'ai continué à apprendre la flûte, mais on va aussi faire du balafon. Donc, il faisait partie de ces gens-là qui sont dans un pays depuis très longtemps et qui sont des passeurs un peu entre plusieurs cultures, entre la culture du pays dont ils viennent, dont ils sont originaires, et la culture du pays qu'ils adoptent.
Et vous continuez de jouer de la flûte ou du balafon pour autant qu'on
Japon ? J'ai même élargi le spectre musical, puisque ensuite je me suis mis au piano, à la guitare. Après, tout ça ne veut pas dire que je joue bien de la musique, hein, je ne suis pas un très grand musicien, c'est moins qu'on puisse dire, c'est ce que vous diront mes amis en tout cas. Mais oui, c'est très important pour moi la musique.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Michaël Ferrier, auteur d'un récit intitulé Scrabble aux éditions Mercure de France, où, on l'a entendu dans la première partie de cette émission, vous vous souvenez de vos premières années au Tchad, une époque magnifique, édénique et qui un jour bascule dans l'enfer, car en 1979, au mois de février exactement, une journée a marqué la fin de votre enfance, puisque la guerre est entrée dans votre vie. Est-ce que 40 ans après, on peut dire pourquoi le Tchad a-t-il été déchiré par cette violence fratricide ?
Alors, ça c'est une question difficile. D'abord, la guerre est entrée ce jour-là. Il est assez rare de pouvoir dater la fin de son enfance. Hélas, je le peux, c'est le 12 février 1979. Et ce jour-là, la guerre n'entre pas dans le pays parce que le Tchad est déchiré depuis de nombreuses années par une guerre civile. Mais la guerre entre à N'Djamena, c'est-à-dire dans la capitale du Tchad. Et effectivement, c'est un désastre. Vous avez parlé très justement d'une période édénique, d'une enfance paradisiaque. C'est exact, mais elle a son revers dans la violence de la guerre qui s'est abattue à partir du 12 février 79 pardon, au Tchad. Donc, la guerre, c'est tout ce qu'on ne comprend pas. On peut l'expliquer. Par exemple, on va vous dire, c'est la guerre entre le nord et le sud, c'est-à-dire entre plutôt des sédentaires et des nomades, ou des tribus qui vivent de l'élevage, et d'autres qui sont au contraire des tribus qui vivent de l'agriculture. On peut trouver des dizaines, des centaines d'explications même. On peut invoquer les raisons géostratégiques, parce que c'est un pays qui est fermé comme une gourde, qui n'a pas d'accès à la mer et qui est entouré de plusieurs pays qui sont à la fois voisins et ennemis et qui donc font pression sur ce pays-là aussi. On peut évoquer le passé colonial avec un partage du pays un peu aberrant, problématique en tout cas. Donc voilà, on peut...
Les religions.
Les religions, évidemment, tout à fait. Aujourd'hui, plus qu'hier peut-être, mais voilà, on peut comment dire dresser tout un spectre d'explications raisonnables, rationnelles. Les historiens, c'est leur travail, ils le font très bien. Moi, je suis pas historien, je peux répondre en empruntant leur réponse et leur code. Mais ce qui m'intéresse plus précisément en tant que romancier, la littérature a cette puissance quand même de restituer ou d'essayer de restituer la réalité à la fois dans sa complexité et dans son humanité. Donc, ce qui m'intéresse en tant que romancier, c'est non pas de chercher des raisons générales, ça c'est pas mon travail, mais de décrire comment les choses se sont passées. Et il me semble, c'est ce que j'avais fait déjà dans Fukushima, récit d'un désastre, il me semble que quand on décrit, quand on énonce tout simplement une situation, du moment qu'on le fait avec les mots justes, eh bien déjà on commence à la saisir, on commence à la comprendre, cette situation. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que la guerre, c'est tout ce qu'on ne comprend pas. On a beau mettre bout à bout plusieurs raisons politiques, géostratégiques, tribales, ethniques, tout ce que vous voulez, comment se fait-il à un moment donné que ça dégénère en un instant où on tue son prochain, quoi. Là, il y a quand même un des grands mystères de l'humanité, je pense.
Et donc, en effet, Michaël Ferrier, comme vous venez de le dire, vous énoncez les faits, vous décrivez les scènes de chaos, les affrontements, les explosions, les tirs, les morts que vous voyez, avec une précision étonnante, comme si tout était resté gravé en vous. De toute façon, vous dites « je n'ai rien oublié ». Donc, c'est toujours un traumatisme pour vous ?
Alors, à l'époque, on ne parlait pas de traumatisme. Aujourd'hui, on utilise beaucoup ça. Il y a les cellules post-traumatiques. Et c'est très bien, je ne me moque pas, je trouve ça très bien. Donc... Oui, c'est resté gravé, vous avez raison. C'est resté gravé à tel point que moi-même, je me suis surpris en écrivant le livre et en retrouvant pratiquement des odeurs, l'odeur de brûlé, l'odeur de pétrole,
métal chaud.
Voilà, l'odeur de métal chaud, les odeurs de corps brûlé aussi. Donc oui, c'est resté gravé. C'est quelque chose qui ne passe pas, voilà.
Avec une scène sidérante où, en dépit de l'injonction de vos parents de évidemment rester dans la maison, voire dans vos dans vos chambres respectives, sous la couette, pour ne rien entendre et pour vous protéger. Un soir, vous sortez.
Oui.
Un soir, vous sortez parce que vous avez vu du feu au loin.
Exactement.
Dans un quartier qui pourtant est dangereux.
Oui.
Et là, vous sinuez entre les corps de morts.
Exactement. Mais alors ça, c'est vraiment la réaction d'un enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne se met pas de barrière. C'est les adultes qui, à un moment donné, mettent des garde-feux ou des garde-fous, des pare-feux. Il faut imaginer quand même le chaos, c'est-à-dire une semaine de combat intensif avec des avions Jaguar qui passent, qui mitraillent, avec des tirs partout, des snipers, ce qu'on n'appelait pas encore des snipers à l'époque, mais c'était des snipers. Et effectivement, l'enfant que j'étais n'a pas réfléchi une demi-seconde ce soir-là. Je me suis glissé par un trou par où sortaient les chiens, un trou du grillage, et je suis allé voir parce qu'il y avait un feu qui m'intriguait, et puis parce que aussi toute cette furie était attirante aussi, elle était effrayante et attirante en même temps. Et donc je suis parti, et c'est là, c'est cette scène que je décris, qui a pas duré très longtemps, ça a duré une heure, peut-être une heure en tout et pour tout. Mais ce sont des moments où le temps est retravaillé par les sens. Tous ces grands moments de catastrophe sont des moments où effectivement le temps, c'est plus le temps du calendrier, on entre vraiment dans un autre temps. Et ça, c'est à l'écriture de le restituer. Avec toute la difficulté qu'il y a à décrire la guerre. La guerre impose une sorte de frontière entre ceux qui la connaissent ou qui l'ont connue et ceux qui ne la connaissent pas. Et ça, c'est terrible, parce que ceux qui ont connu la guerre, à la fois ils en ont un savoir d'une certaine manière, puisqu'ils l'ont connue, et souvent dans leur chair, dans leur corps, et en même temps, ce savoir, il est quasi intransmissible. C'est-à-dire, c'est une connaissance énorme, mais très difficile à faire passer sur le papier, par exemple, à expliquer aux gens. Et c'est là où la littérature entre en jeu, parce que à quoi servirait la littérature si elle n'était pas justement cette manière d'essayer de transmettre ce qui ne peut pas être transmis autrement, voilà. Et c'est là où Scrabble, ce livre, est relié aussi à d'autres livres que j'ai fait avant, notamment Fukushima, récit d'un désastre, et je m'aperçois bien maintenant que si en 2011, au moment du tremblement de terre, du tsunami et de la catastrophe nucléaire qui a frappé le Japon, je m'aperçois bien que si je suis monté dans la zone interdite, dans le Tohoku, dans le nord-est du Japon, c'était aussi, d'une certaine manière, pour rendre hommage à mon enfance. Je n'aurais pas connu la guerre au Tchad, je ne sais pas si je serais monté là-haut. Donc ces deux expériences sont reliées d'une manière très forte, très profonde.
Votre père a pris la décision de rapatrier votre famille d'urgence. Vous êtes retourné au Tchad depuis cette année 1979 ?
Non. Alors déjà, c'est le gouvernement français qui nous a rapatriés. D'urgence, oui, c'était une urgence, mais ça a duré quand même une petite semaine, coincé sous les combats. Je pense que peut-être parmi les auditeurs, il y en a qui s'en souviennent, qui ont vécu la même situation. On a traversé toute cette ville de N'Djamena que j'avais arpentée enfant de long en large, du nord au sud, d'est en ouest. On l'a remontée une dernière fois, on a formé une colonne de véhicules avec d'un côté un drapeau blanc, de l'autre côté un drapeau français, de chaque côté de la voiture de tête. Et puis on a traversé N'Djamena avec la peur au ventre, parce que c'est une ville qui était déchirée par la guerre civile. Et on est monté vers le nord, où se trouvaient les baraquements, les casernements de l'armée française, qui avait comme consigne de ne pas intervenir. Mais ce sont des situations qu'on connaît très souvent en Afrique et ailleurs, des situations de guerre qui sont terriblement complexes, où l'armée française fait de son mieux, où le gouvernement français fait de son mieux aussi, mais qui aboutissent à parfois à des véritables situations sans issue.
Donc vous n'êtes pas retourné au Tchad, pourquoi ?
Non, alors je ne suis pas retourné au Tchad pour plusieurs raisons. La première, c'est que le Tchad est toujours un pays en guerre. Et puis en plus, c'est le pays de mon enfance, donc j'ai pas envie d'y revenir en touriste. Et encore moins en touriste, dans une cohorte, sous protection, voilà. J'ai, comme vous vous en doutez, j'ai immensément envie de revenir au Tchad. Je ne le ferai pas dans n'importe quelle condition. Je le ferai en fait si je retrouve des amis tchadiens. Donc voilà, je reviendrai volontiers au Tchad, qui est un pays qui est au fond de mon cœur, qui est vraiment, j'ai un rapport extrêmement fort avec le Japon, mais le Tchad, c'est quasi un cordon ombilical, quoi. Mmh. Et donc je reviendrai volontiers, et là je lance presque un appel sur votre antenne, si j'y retrouve des amis, voilà. Et il y en a, évidemment.
Reste de ce pays un goût pour l'observation, la comparaison, le rythme, une vision du monde, des gestes, en particulier peut-être le travail de la main, oui, pour chasser les mauvais esprits, où je vous cite, la main doit être à la fois souple et ferme, les doigts agiles, le corps tendu vers le geste et l'esprit, vers la cible, et vous finissez en disant, encore aujourd'hui, je n'écris pas autrement. C'est donc de cette enfance tchadienne que vient votre pratique de l'écriture aujourd'hui ?
Oui, d'une certaine manière, oui, oui, tout à fait. Non seulement cette pratique de l'écriture, le travail de la main. Alors le travail de la main, c'est aussi la magie. Il y a un côté sorcellerie dans l'écriture quand on s'y prend bien. La sorcellerie évocatoire. Et puis le Scrabble, le titre du livre, c'est le Scrabble. On l'apprendra à la fin du livre, pourquoi ce titre. J'ai découvert à la fois, à ce moment précis de mon enfance, j'ai découvert à la fois l'Afrique, le goût de l'exploration, le goût du monde finalement. Le goût du dehors, le goût du pluriel. En même temps, je découvrais la guerre et ses horreurs. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une expérience extraordinairement contrastée, intense. Et en même temps, grâce à ma mère qui nous faisait jouer au Scrabble, je découvrais aussi les prestiges et peut-être les mirages de l'écriture. La façon d'agencer des lettres sur un plateau. Un écrivain, finalement, ne fait pas autre chose. Donc, je dirais que ce livre trace une expérience fondamentale, vraiment, au sens où ce sont les fondements de ma vie qui ont été posés là. Je ne le savais pas. Je l'ai redécouvert fort tard. Il y a quelques mois, quand je l'ai écrit, ce livre, le goût du dehors, le goût de l'exploration, le goût de la documentation externe, le goût d'aller voir les gens différents, qui ne pensent pas comme nous, qui ne vivent pas comme nous. La puissance de la guerre et de la mort, la puissance de la violence que j'ai retrouvée ensuite dans ma vie à Fukushima, mais ailleurs. Et puis, peut-être cette manière de faire face à cette violence qui est l'écriture.
Ultime question, votre livre a été retenu dans la première liste de la sélection du prix Renaudot dans la catégorie roman, étrangement. Comment est-ce que vous recevez cette distinction pour quelque chose de qualifié de fiction, alors que c'est un récit autobiographique?
Alors là, le problème de la définition du roman, c'est quelque chose qui occupe les écrivains et les critiques littéraires depuis de nombreuses années. Moi, j'ai une définition assez extensive du roman. Je trouve, par exemple, chacun fait le roman de sa vie. Il est évident qu'à partir du moment, c'est Paul Ricoeur qui disait ça, à partir du moment où vous écrivez un texte, vous commencez déjà une fiction. Vous mettez la réalité en mots, donc vous avez une façon d'organiser le discours, vous avez une façon de mettre tel ou tel élément en valeur, au contraire d'en estomper d'autres. Et voilà, donc déjà, moi, si on me dit que Scrabble est un roman, je dis oui, c'est un roman vrai, voilà.
Merci beaucoup, Michael Ferrier, d'être venu, non pas spécialement pour nous du Japon, mais en tout cas d'être venu ici à ce micro de RFI nous parler de ce merveilleux livre intitulé Scrabble, paru dans la tout aussi merveilleuse collection Traits et Portraits de Colette Fellous aux éditions Mercure de France.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.